VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 9 octobre 2023. En direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer, les titres. Plus de 1100 morts dans la guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis livrent des munitions à Israël et renforcent leur présence militaire. Nous aurons aussi les réactions à travers le monde. Au Tchad, arrestation de militants du parti Les Transformateurs, le succès Masra. Arrestation aussi en Angola, plus de 100, après des manifestations antigouvernementales. En Belgique, deux anciens responsables rwandais en procès à Bruxelles pour crimes de génocide. Plus de 2000 morts suite au séisme en Afghanistan. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Bouleversée par l'attaque la plus meurtrière sur son territoire depuis sa création, Israël a officiellement déclaré la guerre hier au Hamas après l'offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, qui a fait plus de 1100 morts au total en moins de 48 heures, selon de nouveaux bilans officiels. Eric Manirakidza.
Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque et 2150 ont été blessés, a annoncé l'armée israélienne dans un nouveau bilan publié lundi matin. Dans la bande de Gaza, sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens, incluant 78 enfants et 41 femmes, ont été tués et 2300 blessés, ont annoncé les autorités locales dimanche. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a mis en garde contre une guerre longue, cherchant à reprendre la main après cette attaque de grande ampleur, terre, air, mer, en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif. Les forces israéliennes ont continué dimanche de traquer les membres du Hamas dans le sud d'Israël et poursuivi leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza, où de nouveaux bâtiments ont été détruits. L'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats dans le sud près de la bande de Gaza. Israël a reconnu que les assaillants infiltrés à partir de la bande de Gaza samedi ont enlevé des civils et des militaires israéliens sans en préciser le nombre. Le site d'information israélien en ligne Innet avance une estimation d'une centaine de civils et militaires israéliens qui sont pris en otage.
Plusieurs Américains ont été tués dans l'offensive du Hamas, selon un responsable américain. Plusieurs autres pays ont signalé des ressortissants morts, enlevés ou portés disparus. Parmi ces pays, le Brésil, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Mexique, le Canada, le Népal, la Thaïlande et l'Ukraine. La guerre entre Israël et le Hamas suscite diverses réactions de la communauté internationale. Fatouma Kalala Alimassi.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à la fin du conflit et à un retour à la table des négociations. Faki Mahamat et le président ougandais Yoweri Museveni appellent à la mise en œuvre de la solution des deux États. La diplomatie kényane estime qu'il est urgent de trouver une voie pacifique au conflit. Les États-Unis, la France, les Royaumes-Unis, l'Allemagne et l'Inde ont condamné les attaques du Hamas et ont exprimé leur soutien à Israël, qui, selon eux, a le droit de se défendre. Washington appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à condamner fermement l'offensive du Hamas palestinien contre Israël. Les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide militaire à Israël avec des nouvelles munitions et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée. Cette aide militaire revient à une participation à l'agression contre notre peuple, a aussitôt réagi le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Le Qatar, l'Iran, la Turquie et le parti islamiste marocain PGD soutiennent le Hamas. Ils accusent Israël d'être responsable de l'escalade des violences, soutenant la légitime défense de la Palestine. Le pape François demande que les attaques cessent en Israël, affirmant que le terrorisme et la guerre ne conduisent à aucune solution. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Égypte, la Chine, la Turquie, la Belgique, le Japon et le Brésil exhortent les parties à faire preuve de retenue et à éviter d'exposer les civils à un danger supplémentaire. Le président Emmanuel Macron condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël et a exprimé sa pleine solidarité avec les victimes.
Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4% ce lundi, après cette offensive surprise du Hamas contre Israël qui suscite des inquiétudes quant à ses conséquences en matière d'approvisionnement depuis la région riche en or noir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Tchad, une cinquantaine de militants de l'opposition, selon la police, et plus de 200, selon l'opposition, ont été arrêtés hier, dimanche, à N'Djamena. Ces opposants préparaient le retour de leur leader, Succès Masra, en exil depuis un an. John Lennon.
Les forces de l'ordre ont constaté des regroupements illégaux des militants du parti Les Transformateurs visant à troubler l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022, assure la police dans un communiqué. Elle annonce une cinquantaine d'interpellations pour nécessité d'enquête. Le président en exil du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a pour sa part assuré que ce sont plus de 200 de ses partisans qui ont été arrêtés alors qu'ils renouvelaient le siège du mouvement et collaient des affiches. Il a montré des photos de jeunes gens collant des affiches, appelant à l'accueillir à l'aéroport de N'Djamena le 18 octobre. Il y a un mois, Succès Masra avait promis de revenir au Tchad le 18 octobre pour continuer la lutte aux côtés du peuple. Mais jeudi, un mandat d'arrêt international de N'Djamena contre M. Masra, daté du 8 juin 2023, a été rendu public, réclamant son arrestation où qu'il soit à l'étranger pour incitation au soulèvement. En cause, une vidéo datant du mois de mai dans laquelle le parquet l'accuse d'appeler aux armes des Tchadiens du sud du pays, sa région d'origine.
Plus de 100 personnes, dont des femmes et des personnes âgées, ont été arrêtées par la police dans l'est de l'Angola à la suite de manifestations antigouvernementales, ont indiqué dimanche les autorités locales. Yacouba Ouedraogo.
Selon le ministère de l'Intérieur de la province orientale de Lundasoul, un groupe avait pénétré sur la voie publique, créant des obstacles pour les passants et causant des problèmes de sécurité. Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient également des enfants, protestaient contre le gouvernement, le coût de la vie, la corruption et la défaillance des services publics. Les autorités de la province orientale de Lundasoul accusent les manifestants d'avoir agi en rébellion en lançant des pierres, des objets tranchants et en endommageant au moins deux véhicules de la police. En conséquence, 132 personnes ont été arrêtées, dont 92 hommes âgés entre 18 et 78 ans, ainsi que 45 femmes de 19 à 58 ans, selon un communiqué du ministère local de l'Intérieur. Début août, Human Rights Watch avait accusé la police angolaise d'avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier. Les forces de sécurité du pays sont aussi accusées d'avoir procédé à des centaines d'arrestations et détentions arbitraires, selon l'ONG.
La journaliste nigérienne Samira Sabou, qui n'a pas donné signe de vie depuis son interpellation le 30 septembre, se trouve dans les locaux de la police judiciaire où son audition a débuté, a déclaré hier dimanche Reporters sans frontières, une détention confirmée par une source dans son entourage. RSF dénonce une procédure arbitraire et demande sa libération immédiate. Les raisons de son interpellation sont encore inconnues. Deux anciens responsables rwandais accusés de crimes de guerre et crimes de génocide sont jugés à partir de ce lundi à Bruxelles. Le sixième procès d'assises en Belgique lié au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Séraphin Toahiroa, 65 ans, et Pierre Bassabossé, 76 ans, deux proches de l'ex-couple présidentiel Habyarimana, avaient trouvé refuge en Belgique, l'ancienne puissance coloniale où vit une importante communauté rwandaise. Ils ont été arrêtés en septembre 2020. Séraphin Victoire Hirwa est accusé d'avoir dirigé à Kigali une milice Interahamwe à l'origine de dizaines de meurtres entre avril et juillet 1994. De son côté, Pierre Bassabossé est soupçonné d'avoir été un financier de ces miliciens Hutus. Il était aussi un des actionnaires de la tristement célèbre radio-télévision Mille Collines, connue pour ses appels à la haine et au meurtre des Tutsis. Plus de 2000 personnes sont mortes dans le violent séisme qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan, selon un dernier bilan rendu public hier par le gouvernement taliban. Un bilan qui s'alourdit au fur et à mesure que les corps sont extraits des décombres de villages ravagés. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le coup d'envoi informel des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui débutent ce lundi à Marrakech a été donné jeudi par la directrice du fonds Kristalina Georgieva à Abidjan. Les premières annonces pourraient venir de la banque, son président Ajay Banga ayant défendu l'idée de prêts à taux préférentiel pour les pays émergents et une augmentation de la capacité d'emprunt de 100 à 125 milliards de dollars sur 10 ans. Lors de son passage à Abidjan, Madame Georgieva a affirmé par ailleurs que son institution se prépare à avoir un troisième représentant pour l'Afrique subsaharienne au conseil d'administration. La Banque mondiale a également annoncé la création d'un troisième siège pour l'Afrique, une décision qui devrait être validée à l'occasion des réunions annuelles des deux institutions financières au Maroc. Orange Bank Africa, présente en Côte d'Ivoire, va étendre ses activités au Sénégal. En juillet, l'établissement a conclu avec la Société financière internationale un mécanisme pour l'extension de ses opérations de prêts numériques aux PME de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Oba veut accorder quelque 300 000 prêts supplémentaires d'ici 2025 à des micro-entreprises et jeunes entrepreneurs des zones rurales. En Côte d'Ivoire, Oba a accordé des microcrédits pour près de 230 milliards de francs CFA.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Tout d'abord, la Coupe du Monde de rugby et les affiches des quarts de finale sont connues.
Et quatre belles affiches qui commencent le samedi prochain où on aura le choc Irlande-Nouvelle-Zélande suivi des pays de Galles-Argentine. Le lendemain dimanche, l'Angleterre jouera les Fidji et le dernier match qui va beaucoup attirer les attentions mettra aux prises la France pays hôte à l'Afrique du Sud tenante du titre de cette Coupe du Monde.
Du handball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions qui a livré son verdict à Brazzaville.
Avec le sacre d'Al Ahly du Caire chez les hommes, le sixième de son histoire, les Égyptiens ont battu en finale les Congolais de la jeunesse sportive de Kinshasa 37 à 23. Au niveau des dames, dans une finale 100% angolaise, c'est le Primero do Agosto qui s'adjuge le trophée en triomphant de son homologue du Pétrole de Luanda, score 28-26.
Une autre Coupe d'Afrique des clubs, celle de la Basketball Africa League, qui se dispute actuellement au Cameroun et à Madagascar.
Oui, c'est la première étape d'un long parcours vers la phase finale qui aura lieu à Kigali au Rwanda pour la quatrième année de suite. Et à Antananarivo, le club omnisport de la police nationale s'offre le seul ticket du groupe E après avoir battu les Seychellois de Hit Beauvallon 76-57. Début hier, par contre, à Yaoundé, des qualifications du groupe B et belle entame des Fabs du Cameroun qui ont facilement dominé les Tchadiens de Lamartin. Entrée réussie aussi pour les Gabonais d'Espoir BC, vainqueurs 73-69 des Centrafricains de Bangui Sporting Club. Précisons que au terme de cette première phase, 6 équipes seront qualifiées pour l'élite 16 prévue au mois de novembre en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud.
Football à présent, Jean-Michel Cavalli quitte son poste de sélectionneur du Niger.
Tout à fait. Le technicien français à la tête de la sélection depuis 3 ans était en fin de contrat. La fédération et le COS, passé également par l'Algérie, ont décidé d'un commun accord de cesser leur collaboration. Son adjoint Ibrahim Zakari Yaou va assurer l'intérim samedi prochain lors de la fenêtre FIFA et dirigera la sélection pour les 2 matchs amicaux face au Liberia et à la Sierra Leone à Casablanca.
Merci Élisée. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le comité de transition a procédé ce week-end à la nomination des membres des deux chambres du Parlement, composées de 98 députés et de 70 sénateurs. Les effectifs ont été ajustés pour incorporer des figures politiques, des membres de la société civile et des militaires. Cet élargissement suscite diverses réactions. La présence de membres de l'ex-parti au pouvoir au sein de ce Parlement suscite une levée de boucliers à Libreville, nous dit notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Les Gabonais ont demandé autre chose que le PDG, sous-entendu Parti démocratique gabonais, ex-parti au pouvoir, et ils ont obtenu pire que le PDG, vive la transition. Peut-on lire sur le compte officiel de l'avocat et opposant maître Ange Kevin Zigou. Une sortie qui rejoint tant d'autres au lendemain de la composition du Parlement gabonais. Ce sont des équipes majoritairement dominées par d'anciennes figures du pouvoir déchues. Selon Abel Mbombanzondo, ex-candidat à la dernière présidentielle, le comité pour la transition reste sur les schémas décriés par les Gabonais.
Comment peut-on s'inspirer encore d'un système qui nous a fait la démonstration qu'il n'était pas venu au pouvoir pour nous? Ils étaient venus au pouvoir pour eux. Les Gabonais n'ont plus envie de revivre ce qu'ils ont vécu. C'est terminé, cette façon de faire.
Pour Michel Okumba, soutient les militaires au pouvoir. Les choix opérés à l'Assemblée nationale et au Sénat par le général président Brice Clotaire Oligingama répondent à un besoin d'inclusion de toutes les forces vives de la nation.
Les nouveaux ne connaissent pas nécessairement ce qui se passe au Parlement. Donc on a besoin des anciens, justement, pour pouvoir montrer le travail au nouveau. La même façon pour le gouvernement. On a ramené certains anciens justement pour traiter certains dossiers. Et après, on fera la transition. La transition, ce n'est pas un mois, c'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans.
Aimé Régis Renombo dirige le mouvement dit Rassemblement Espoir pour le peuple.
Les intentions sont bonnes. Vous savez ce qu'on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faudrait que le référendum qui se tiendra dans deux ans ou dans trois ans soit un succès. Il faudrait que les Gabonais et les Gabonaises se reconnaissent dans les lois.
À seulement un mois du changement de régime, des voix s'élèvent pour appeler les militaires à plus de lucidité. Guylaine Ibinga est un communicateur.
Il y a des perfides trompeurs qui sont là, aux aguets, et qui n'attendent que le moindre faux pas pour que cette transition-là se retrouve dans les mêmes griffes que le président sortant.
Les députés et sénateurs nommés par les militaires n'ont pas de pouvoir constituant. La nouvelle constitution promise à référendum va émaner d'une assemblée constituante qui sera mise en place à l'issue du dialogue national prévu entre avril et juin 2024. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les populations du Congo-Brazzaville et celles du Cameroun voyagent désormais par bus grâce à une route reliant Brazzaville à Yaoundé. Cette route asphaltée a été construite par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui est toujours à la recherche de fonds pour réaliser plusieurs autres projets intégrateurs dans la sous-région. Un reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Les premiers bus reliant Brazzaville à Yaoundé ont commencé il y a quelques mois dans la plus grande hésitation des usagers. Deux jours de voyage pour 70 000 francs de billets, les passagers, épargnés des tracasseries de visa et d'ajournement des vols, sont plutôt heureux. Séraphine, une étudiante brazzavilloise.
C'est un facteur qui a favorisé une grande intégration sous-régionale entre les deux pays frontaliers. Mais pour un départ, nous allons avouer que le voyage reste tout de même long en partance du Cameroun. Nous avons au moins trois postes de contrôle. Après la traversée de la frontière, nous devons encore changer de bus, ce qui coûte davantage en énergie, en temps et surtout en argent, beaucoup plus du côté congolais. Il y a des barrages qui nécessitent de l'argent.
À Sembé, à quelques 1075 km au nord de Brazzaville, la route, tel un serpent, traverse la forêt équatoriale. Les populations longtemps enclavées témoignent de l'importance de cette route.
Quelque chose qu'on pouvait faire des années 2003 dans un mois ou deux mois pour arriver à Douala, mais aujourd'hui nous sommes capables de quitter Brazzaville et se rendre à Douala dans deux jours. Ah, on est sur la route, en tout cas, la voie est vraiment bon, mais malgré un peu de difficultés, de petits trous, mais sinon ça va.
Pour voyager, le prix est quand même bas, abordable. Deux, nous qui sommes dans les villages, on vend facilement des bananes, des choses. Et les moyens roulants, donc il y a la circulation.
La route Brazzaville-Kétadjoum-Yaoundé est l'un des succès de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, grâce à une enveloppe de 3,3 millions de dollars. Plusieurs autres projets intégrateurs sont déjà lancés, mais ne peuvent être poursuivis faute d'argent. Michel Sir Djena Wembu, le secrétaire permanent du programme économique de la CEMAC, donne ici quelques précisions.
Les résultats dans le commerce de nos pays, je vous invite d'aller voir sur nos marchés. Vous verrez ce qu'on appelle les tomates qui viennent de Fomo. Vous verrez le plantain qui vient d'Obala, etc. C'est là. Le Congo est relié au Cameroun. Le Congo est relié au Gabon. Le Congo est relié à la République centrafricaine. La connexion entre le Tchad et le Cameroun a été réalisée. Entre la Guinée équatoriale au niveau de Kiosi, c'est fait. Entre le Guinée-Équatoriale et Gabon, c'est fait. Qu'est-ce qui reste? C'est d'achever RCA Cameroun et RCA Tchad.
La table ronde avec les bailleurs de fonds qui vise à collecter 8,8 milliards d'euros se tiendra en novembre prochain à Paris. Les États de la CEMAC ont déjà eux-mêmes réuni 17% du montant recherché. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, le gouvernement met à la disposition des vendeurs d'essence de contrebande des mini-stations. Le but est de lutter contre les incendies comme celui qui a fait une trentaine de morts il y a quelques semaines dans une ville béninoise située près de la frontière avec le Nigeria. L'initiative est applaudie par la population. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Fatigué des incendies à répétition, le gouvernement béninois avait pensé à une radicale suppression du secteur de l'essence de contrebande. Sa détermination s'est heurtée au refus des acteurs et des Béninois habitués à s'approvisionner.
Moi, je pense que ce n'est pas mal de supprimer. Mais si on supprime, quelles sont les conséquences que nous pouvons avoir dans la vie sociale?
Il n'y a pas assez de stations. Donc déjà, si les stations n'arrivent pas à satisfaire, à quoi bon vouloir supprimer? C'est déjà ça le problème. Là, c'est bien beau de le dire, mais quand même, il faut déjà trouver des solution avant de dire supprimer carrément.
Ce secteur n'a pas besoin de supprimer de façon brutale. Ça a besoin d'une réorganisation.
Malgré les nombreuses sensibilisations, rien n'a changé, même après le vote de la loi sur la commercialisation de l'essence de contrebande. Jean-Claude Koudia, préfet de l'Atlantique, lors d'une séance de sensibilisation des vendeurs d'essence sur le bien fondé des mini-stations.
35% des communes ne disposent d'aucune station-service formelle. Ces mini-stations et camions ont pour objectif de faciliter l'accès aux produits pétroliers par la population dans toutes les localités du pays dans des conditions qui préservent la sécurité et la santé publique et qui garantissent une bonne qualité du carburant servi. Après la mise à la disposition des détaillants et des transporteurs des équipements modernes, la répression entrera bien entendu dans sa phase active.
5 ans déjà que le gouvernement a appelé à une reconversion professionnelle des acteurs du secteur et à ceux qui le désirent s'enregistrer pour une réorganisation. Le récent incendie qui a fait plus de 34 décès et de nombreux blessés a précipité l'installation des mini-stations diversement appuyées par les Béninois.
Et les petites stations que le gouvernement est en train de construire maintenant, moi je vois que c'est très bon. Les incendies là sont de trop.
Faut pas que demain, quand les gens vont chercher à intégrer les choses, faut pas que ça soit politisé.
Les mini-stations qu'on est en train de faire, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait l'enregistrement. Les gens qui ont fait l'enregistrement là, c'est plus petit que les gens qui n'ont pas fait.
Pour le gouvernement, il est impossible d'équiper tous les acteurs du secteur et d'autres devront changer de métier au risque de subir les rigueurs de la loi. Omiad Ouadaï, ministre des Finances.
D'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui
reste dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, nous allons les voir, les acteurs, pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites, parce que vous voyez, dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Une partie des acteurs devra être reconvertie, formée, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations.
Ces mini-stations devront relayer les stations formelles qui n'arrivent pas à faire face à la demande en produits pétroliers. Ceux qui n'auront pas de station vont-ils accepter facilement la reconversion? C'est dire que la lutte contre la contrebande de l'essence est encore loin d'être gagnée. De Cotonou, Ginette Leadonné pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Sixième édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales à Abidjan, Côte d'Ivoire. Lancé le 29 septembre, ce salon a réussi à mobiliser 6500 professionnels de l'agriculture et de l'élevage dans la capitale économique ivoirienne. Un rendez-vous riche en expériences et en partage, nous dit d'Abidjan notre correspondant Ange Bijou Nomenio.
Avec Audit Transmédie, la beauté de la santé au naturel.
Elles sont venues du Burkina Faso. Odette Zoré et son équipe mettent en exposition des produits cosmétiques 100% naturels. Il s'agit entre autres du beurre de karité et des pommades faites à base de produits bio. Odette Zoré, PDG du laboratoire Odys Cosmétiques.
Ça c'est une crème karité hydratante. Ça arrange très bien la peau. Ça laisse la peau propre et lisse. Voilà notre savon aussi. Si tu as les boutons et les taches, si tu prends ce savon-là, ça va enlever toutes les taches qui sont sur ta peau.
Tout juste à côté de ce stand, on retrouve un autre rempli de produits faits à base de feuilles de moringa. Des produits spécialement venus du Burkina Faso. Sonia Goulima, responsable de l'entreprise La Figo.
Les différents produits que nous avons la poudre de moringa, nous avons aussi les biscuits de pain de singe enrichis au moringa, nous avons des biscuits de pain de singe au gingembre, nous en avons aussi à la fraise, nous avons de la poudre assaisonnée au piment et au soumala.
La Côte d'Ivoire, pays hôte de l'événement, a présenté ses richesses agricoles parmi lesquelles la noix de cajou. Ici, nous assistons à la préparation de mets ivoiriens assaisonnés de noix de cajou. Axel Emmanuel, pâtissier.
C'est la journée des écoles hôtelières. Nous sommes au SARA, sur le stand du Conseil du coton et de l'anarcade. Ici, tous les jours, nous faisons de la cuisine. Nous cuisinons, nous pâtissons avec des produits à base de noix de cajou et produits dérivés d'anarcade. Chef Ena, qui est diplômé de l'école hôtelière de Grand Bassam, est chef à domicile entrepreneur, a présenté de nouilles avec du poulet grillé, façon taille avec des noix de cajou. Elle a utilisé le miel de cajou, elle a utilisé l'huile de cajou et tout ça les graines de cajou torréfiées sur le plat. Donc c'est ce qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes et c'était un show, cooking show, tous les jours jusqu'à la fin du SARA.
Le SARA est un salon international qui se déroule tous les 4 ans sur le territoire ivoirien. Il a été lancé afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche. Ange Bijou Namayon pour VOA Afrique, Abidjan.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X ou l'ex-Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.